abonnement à marchedelespoir.ca.
Les par actualité.
Bonjour et soyez les bienvenus à l'émission Les Paractualités du 5 avril 2018. Hélène Denis au micro et en manchette aujourd'hui. Documentaire Dernière nouvelle du cosmos ou la complexité de l'autisme. Un projet d'appartement supervisé en développement à Shawinigan. L'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale annonce les champions de la santé mentale 2018. En entrevue, je reçois Alexis Auclair, joueur de para-hockey, membre de l'équipe de para-hockey Québec, qui nous parle de sa passion pour son sport et de sa participation au défi sportif Alter Go, ainsi que Hélène Gagnon, auteure de « L'année déchaînée » de Jérémy Dubé, qui en est déjà à son tome 3. Documentaire « Dernière nouvelle du cosmos ou la complexité de l'autisme » tiré de Ici Radio-Canada, c'est un documentaire consacré à Hélène Cola, plutôt à Hélène Nicolas. « Dernière nouvelle du cosmos », une jeune autiste au parcours stupéfiant. Ce film de la cinéaste Julie Bertuccelli, qui prend l'affiche cette semaine, vous fera reconsidérer votre conception de l'intelligence. Souffrant d'autisme déficitaire, Hélène Nicolas est confiée aux bons soins d'un centre spécialisé de jour, sans aucune amélioration pendant 14 ans. En 1999, sa mère, Véronique Truffert, décide de tout abandonner pour se consacrer à sa fille. Elle prend alors le temps de la connaître vraiment, réussit à lui apprendre à utiliser ses mains et parvient même à la toucher. Quelle n'est pas sa surprise lorsqu'au détour d'un jeu, elle réalise que sa fille sait lire. Elle lui offre alors un alphabet en pièces détachées et découvre du même coup que sa fille sait également écrire. Hélène a d'ailleurs publié depuis 3 livres sous le nom de Babouillec. On a fait une batterie de tests et j'ai fini avec le dictionnaire car je ne savais plus quoi lui demander. Le documentaire Dernière nouvelle du cosmos se penche sur le cas de cette jeune femme brillante, possédant de grandes capacités intellectuelles dont la plupart des gens auraient dit qu'elle était déficiente. Dernière nouvelle du cosmos prend l'affiche au cinéma à Québec le 6 avril prochain. Une nouvelle tirée du Devoir, licencier des personnes handicapées, une décision d'affaires légitime? Après avoir entamé le remplacement des caissiers et caissières par des bornes automatisées libre-service, Walmart a franchi un pas de plus en annonçant le remerciement des employés atteints d'un handicap qui bénéficiaient jusque-là d'un programme d'intégration en emploi dans ses succursales participantes au Québec. Le géant du commerce de détail a expliqué froidement et sans trop d'émotivité que sa décision de mettre fin au programme de formation professionnelle de personnes atteintes d'une déficience intellectuelle ou d'un trouble du spectre de l'autisme, découlait d'une révision de leur politique, de même que des changements à la législation, le tout en vue d'atteindre son objectif de travailler de façon efficace et pertinente. Cesser de recourir à des employés handicapés pour être pertinent. Sérieusement, s'il est vrai que les centres locaux de santé et de services sociaux poursuivent un noble objectif en instaurant des plateaux de travail dans certaines succursales de la multinationale, il n'en demeure pas moins que la situation dans laquelle ces bénéficiaires sont placés sur le marché du travail laisse perplexe, surtout lorsqu'une entreprise décide subrepticement de se départir de cette main-d'œuvre sans raison valable apparente. D'ailleurs, Walmart se garde bien de reconnaître être le véritable employeur des individus touchés par son annonce. Malgré tout, on sait que les participants au programme d'intégration en emploi exécutaient des tâches semblables à celles de leurs collègues et profitables aux détaillants. Sauf erreur, ils portaient même un uniforme de travail. En outre, il ne s'agissait pas d'une immersion en emploi passagère, car certains y œuvraient depuis plusieurs années, voire des décennies. Difficile donc pour la population de les différencier de l'ensemble du personnel. Et on joint maintenant Alexis Auclair, joueur de para-hockey, membre de l'équipe de para-hockey Québec, pour échanger avec lui sur sa passion du sport, sur son regard sur le défi sportif Altergo. Bonjour, Alexis.
Bonjour.
Ça va?
Oui, vous?
Oui, oui, ça va, merci. Qu'est-ce que le para-hockey, en quelques mots?
Ben, c'est exactement la même chose que le hockey traditionnel, sauf que on est assis dans une luge et on avance et contrôle la rondelle avec deux bâtons.
Qu'est-ce que vous aimez dans ce sport-là?
De pouvoir de faire du sport en étant en n'ayant aucun handicap, ce qui est contradictoire, mais pour quelqu'un handicapé, tu n'as aucun handicap en faisant du sport. Tout le challenge, le défi, la compétition aussi.
Alors, il faut beaucoup. Dire que vous avez perdu vos jambes dans un accident, vous étiez jeune.
Oui, j'avais 7 ans.
Et vous avez quel âge aujourd'hui, si je peux me permettre?
19 ans.
19 ans, donc ça fait 12 ans. Et depuis combien de temps, Alexis, vous participez au défi sportif Altergo?
Cette année, ça va être ma deuxième année.
Ah oui?
Oui.
Et qu'est-ce que ça vous apporte?
C'est de nouvelles expériences, rencontrer des nouveaux gens dans la même condition que moi, qui ont les mêmes passions que moi pour le sport.
Est-ce que la compétition est très forte en para-hockey?
Oui, 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 oui.
Oui?
Oui, on a 3 matchs contre l'équipe nationale de développement des États-Unis durant le défi. Donc, la compétition est très élevée.
Et quel est le nom de votre équipe à vous?
C'est l'équipe. Durant le défi, dans le fond, on fait un camp pour l'équipe nationale de développement du Canada.
Mm-hmm. Et pour les jeunes sportifs en situation de handicap, ça représente quoi le défi sportif Altergo?
C'est une chance de rencontrer de nouveaux gens dans la même condition, pouvoir se dépasser dans leur sport qu'ils apprécient, évidemment.
Mm-hmm. Et depuis combien d'années vous pratiquez le para-hockey?
C'est ma deuxième année cette année.
Est-ce que vous avez essayé d'autres sports avant le para-hockey?
Il y a quelques années, j'ai essayé le basket en fauteuil roulant.
Oui, puis ça vous a moins souri que le para-hockey.
Oui.
J'imagine que oui. Et quels sont vos souhaits pour cette 35e édition?
Personnellement, c'est de gagner la série contre les États-Unis.
Oui.
Ouais.
Est-ce que on vous remet des médailles? Comment ça fonctionne le si vous gagnez? Est-ce que vous avez des bourses?
Non, c'est juste vraiment une série pour évaluer les futurs joueurs de chaque pays.
Mm-hmm. Alors, c'est ça qui est extraordinaire aussi, mesurer son talent par rapport à des équipes qui viennent d'autres pays que vous n'avez pas nécessairement l'occasion de rencontrer régulièrement.
Oui, oui.
Ouais. Ouais. Et quand vous ne faites pas partie du défi sportif Altergo, vous jouez votre sport, est-ce que vous pouvez pratiquer votre sport comme vous le voulez?
Oui. Il y a plusieurs équipes partout au Québec qui se regroupent pour faire des pratiques, jouer des matchs.
Est-ce que vous avez un héros dans votre sport?
Pas spécialement. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé le hockey luge, puis avant, je connaissais pas ça. Donc,
OK. Alors, le para-hockey et le hockey luge, c'est la même chose?
Ouais.
Bon, alors, vous avez envie de... Je vous comprends très bien, là. Vous avez une âme de sportif, vous voulez gagner contre les États-Unis, mais est-ce que vous avez un autre grand rêve? Quel serait votre plus grand rêve en tant que sportif?
Aller aux Jeux paralympiques de Pékin en 2022.
Ah oui, pensez-vous que c'est possible?
Oui, j'ai encore le temps. Puis j'ai été invité au camp des équipes, de l'équipe nationale cette année. Donc, c'est qu'ils ont... Ils me voient plus tard. Là, ils espèrent que...
Ah oui, vous êtes un espoir olympique.
Oui.
Pour les Paralympiques de 2022. Bien, on vous le souhaite,
ouais.
Mon cher Alexis. Puis en attendant, on vous souhaite de remporter contre les États-Unis.
Merci.
Alexis Auclair, joueur de para-hockey, membre de l'équipe de para-hockey Québec qui nous parlait. Merci, Alexis, et au plaisir de vous voir jouer.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. We'll be right back.
bloc régional de Radio-Canada.ca, un projet d'appartement supervisé en développement à Shawinigan. Un projet d'appartement supervisé est en démarrage à Shawinigan pour des adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. L'initiative est celle d'un groupe de parents qui se sentent démunis devant l'absence de ressources résidentielles pour leur enfant devenu adulte. Le projet de 1,5 million de dollars suscite de l'engouement dans le secteur. 12 noms de locataires potentiels ont été recueillis depuis le mois de janvier. L'instigatrice du projet, Michèle Lafontaine, est elle-même mère d'un jeune adulte trisomique. Son fils, Félix, partira en appartement le jour de ses 25 ans en septembre. Ses parents seront très présents dans ses démarches et dans sa nouvelle vie, faute d'autres ressources. Ce qu'on a présentement dans notre région, on a des familles d'accueil, des résidences, mais il n'y a pas de ressources d'hébergement comme des appartements supervisés. Elle souhaite sensibiliser la communauté à l'importance d'un tel projet dans la région. Le projet qui est en train de voir le jour proposerait de l'accompagnement aux locataires de jour, de soir et de nuit. L'Université du Québec à Trois-Rivières a déjà proposé son expertise, notamment d'un point de vue technologique. La Gadoue complique la vie des personnes à mobilité réduite. Qui peut penser construire une ville comme ça? C'est en pleine tempête, en observant les difficultés rencontrées dans la rue par une dame âgée, que le chercheur Ernesto Morales a eu un déclic. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'accessibilité? S'est demandé ce Mexicain d'origine, maintenant établi au Québec, qui voyait l'hiver avec un regard neuf. J'étais certain que la dame tomberait. C'était assez angoissant de la regarder, se remémore le professeur au département de réadaptation de la Faculté de médecine de l'Université Laval. Malgré un sursaut hivernal, ces dernières heures dans les conditions météo, le printemps est officiellement arrivé et avec lui l'espoir de voir disparaître la neige et ses désagréments au coin des rues. La planification pour trouver des solutions ne connaît quant à elle pas de repos saisonnier. Ernesto Morales planche justement sur un prototype de coin de rue chauffant. Déjà en pourparlers avec la ville de Trois-Rivières pour tester son projet, M. Morales souhaite pouvoir le construire cet été afin qu'il soit prêt pour l'hiver prochain. Patrice Gingras, directeur du génie à la ville de Trois-Rivières, a confirmé au Devoir que celle-ci sera très heureuse d'en faire l'essai. Des ajustements et des précisions doivent cependant être apportés pour qu'elle s'engage dans l'aventure. Un coin de rue chauffé à l'air des égouts. Des consultations auprès de personnes ayant différentes incapacités réalisées dans le cadre d'un partenariat entre le Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, la Ville de Québec et le Programme Participation sociale et ville inclusive ont dirigé l'attention de M. Morales vers les problèmes vécus l'hiver aux intersections. Hélène Gagnon a publié 3 romans pour adultes aux éditions JCL. Elle se consacre aujourd'hui à la littérature jeunesse et donne des ateliers d'écriture aussi dans les écoles. Elle est l'auteur de « L'année déchaînée » de Jérémy Dubé, tome 1, 2, 3, le 3 qui vient de sortir. Hélène Gagnon, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, est-ce facile de passer de la littérature pour adultes à la littérature jeunesse?
Je dirais que c'est pas une question de facilité, mais plutôt d'adaptabilité.
Mm-hmm.
Parce qu'en fait, on parle pas exactement le même langage quand on s'adresse à des jeunes de 8 à 12 ans
non.
plutôt qu'à des adultes.
Quoi, il faut donc, être un peu plus simple dans notre façon de s'exprimer ou?
Dans la façon de s'exprimer des jeunes?
Oui, ben dans l'écriture, j'imagine que les histoires sont différentes ou la manière de les écrire?
C'est plutôt la manière de les écrire.
Ah, oui.
En fait, j'ai un public de 8 à 12 ans. C'est que je veux pas les traumatiser, leur créer des peurs puis des questionnements qui vont au-delà de leur âge.
Mm-hmm.
Donc, il y a une certaine censure à faire par rapport à quand on écrit pour adultes. J'essaie de décrire la réalité de 2018, c'est sûr, celle-là dans laquelle ils vivent, avec les différences, l'intimidation, etc. Mais en fait, je veux par-dessus tout que le jeune qui lit mes livres passe un bon moment de détente puis qu'il trouve du plaisir.
Oui.
Écrire pour les jeunes, ben, c'est se mettre à leur niveau, apprendre à les écouter.
Et se mettre à leur niveau, c'est pas nécessairement de s'abaisser, pas du tout.
Absolument
là.
Pas. Bien non. Souvent, c'est de se relever.
Oui.
Parce qu'on a beaucoup à apprendre des jeunes, puis des fois, dans notre monde d'adulte, avec toutes ses responsabilités, on devient un peu croupi, on devient un peu... on a épais sur les épaules, alors que quand on est jeune, on n'a pas cette pression-là de responsabilité. Alors, des fois, il faut savoir s'élever pour retrouver cette facilité à vraiment... à vraiment trouver les choses extraordinaires, à vraiment revoir avec des yeux d'enfant. Puis moi, je pense que c'est s'élever au niveau des jeunes que d'être capable de retrouver cette sensibilité-là.
Je pense que vous avez atteint votre but avec, entre autres, l'année déchaînée de Jérémy Dubé, parce que vous en êtes déjà au tome 3.
Puis avant, j'avais écrit Lance et Compte, les débuts, 16 tomes.
Lance et Compte, ça n'a rien à voir avec la série de Régent Tremblay, là.
Oui.
Ah oui?
Oui. Oui, en fait, c'est Pierre Lambert, c'est deux années, puis oui.
Ah bon?
Alors, on voit tout ce qu'on n'a jamais vu à la télé parce qu'on le prend de 11 ans à 13 ans, Pierre Lambert.
Est-ce que Régent Tremblay a donné sa bénédiction à ce projet-là?
Ah oui, absolument. J'imagine. Ah oui, absolument, j'avais pas le choix.
Non, c'est
absolument.
Sûr. Ouais. Ah, Pierre Lambert, puis oui, c'est intéressant, ça.
Oui, fait qu'il y a 16 tomes de ça, donc mettons que j'ai eu une bonne pratique pour la littérature jeunesse.
Oui.
Donc, avec Jérémy, tome 3, je suis rendue à 19 livres pour jeunes de 8 à 12 ans, garçons et filles.
Mm-hmm. C'est impressionnant. Présentez-nous donc Jérémy Dubé. Qui est-il? Dans quel univers il évolue?
OK, Jérémy Dubé, c'est un garçon de 12 ans qui adore le soccer.
Oui.
Lui, il rêve d'être admis à sport-études-soccer à son entrée au secondaire.
Uh-huh.
Il lui reste une année primaire à faire pour remonter sa moyenne générale et atteindre le 70% qui est requis pour être admis en sport-études.
Le chiffre magique, 70.
Absolument. Mais Jérémy, il a un trouble de déficit de l'attention, donc un TDA.
Mm-hmm.
Puis pour lui, c'est difficile de rester concentré puis bien écouter pendant ses cours à l'école, surtout... au niveau des cours qu'il n'aime pas vraiment, comme le français, les mathématiques,
ouais.
Bon, les cours qu'il aime bien, ça va tout seul ou à peu près, comme n'importe quel autre élève.
Mm-hmm.
Mais les matières qu'il aime moins, mettons qu'il part dans la lune, ou bien non, il y a d'autres choses plus importantes à faire dans sa tête que d'écouter à bien des moments. Ce qui lui cause des problèmes de concentration et d'apprentissage.
Oui, donc c'est pas nécessairement gagné, là, ce 70%-là dans toutes les matières.
Ah non, mon Dieu, non. Puis il faut que vraiment, on appelle ça l'année déchaînée de Jérémy Dubé, justement parce qu'il va avoir une année complètement folle à bien des niveaux. Il y a plein de choses qui lui tombent sur les épaules. Il y a des embûches, il y a toutes sortes de choses. Mais il y a beaucoup de plaisir aussi, par exemple. Puis si on revient à qui c'est Jérémy Dubé, il veut réaliser son rêve, Jérémy. Puis c'est à la fois un garçon anxieux, là, à l'idée qu'il pourrait pas réussir à atteindre son objectif. Puis il se remet des fois, il remet son degré d'intelligence en question, surtout quand il reçoit son bulletin scolaire. Mais par chance, Jérémy, il est bien entouré.
Bon, tant
puis
mieux.
On l'aide à augmenter sa confiance en soi. Mais en fait, il ne faut pas le voir comme un personnage sombre, aucunement. C'est un garçon heureux puis enjoué dans la vie de tous les jours. Il aime passer de bons moments avec sa famille, ses amis. Il aime bien rigoler.
Il vit à Alma, hein, si je ne me trompe pas.
C'est ça, exactement. Oui. Exactement.
Comme l'auteur.
Pardon?
Comme son auteur.
Bien, son auteur vient du Saguenay.
Oui.
Et ben, par chez nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on fait la différence entre Saguenay et Lac-Saint-Jean, malgré que c'est plutôt un clin d'œil, là, parce que dans le fond, tout le monde s'aime bien.
Mm-hmm.
Mais moi, je suis native de Jonquière, qui est au Saguenay. Jérémy reste à Alma, qui est au Lac-Saint-Jean.
Bon,
mais
vous n'êtes pas loin.
Non, absolument pas, en plus. Avec l'autoroute aujourd'hui, c'est rien. Mais l'histoire se passe vraiment dans toute la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. On va faire des petits tours, des petits clins d'œil un peu partout dans les événements, les choses importantes à visiter.
Et Mme Gagnon, quelle recherche vous avez fait pour bien comprendre les troubles de déficit de l'attention, pour en parler dans vos livres, dans l'année déchaînée de Jérémy Dubé?
OK. J'ai lu quelques livres là, sur le sujet, puis j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet. Puis il faut dire que dans mon entourage, j'ai des personnes qui ont des TDA aussi. Donc, j'ai eu l'occasion de regarder aller ces personnes-là, d'essayer de me mettre, de comprendre mieux qu'est-ce qu'elles vivent, de me mettre dans leur tête. Puis à propos de me mettre dans leur tête, il a été porté à mon attention que sur un blog, il y a un jeune de 11 ans qui avait lu L'année déchaînée de Jérémy Dubé, tome 1,
mm-hmm.
et qui en avait fait un genre de critique, si on veut, critique littéraire.
Oui, oui, oui.
et qui a dit, entre autres, on dirait que l'auteur s'est mis dans la tête d'un TDA pendant une journée tellement qu'on se reconnaît là-dedans.
Alors, c'est un beau compliment, ça, mission accomplie.
Ça, c'est valorisant, sécurisant, parce que je me demandais justement, est-ce que j'ai bien rendu ce phénomène-là? Est-ce que les jeunes vont se reconnaître? Puis lui, le petit gars, il conseillait, il faudrait que tous les jeunes qui ont un TDA, leurs amis, leurs parents, leurs enseignants, lisent ces livres-là, parce qu'ils comprendraient enfin ce qui se passe dans notre tête, puis arrêteraient de nous dire « Hey, concentre-toi », alors que c'est tout ce qu'on essaye de faire, se concentrer.
Ah oui.
Ça a été vraiment là, valorisant pour moi.
Bien, j'imagine, vous avez atteint vos objectifs, vous avez fait vos devoirs. Et en terminant, Mme Gagnon, quels sont les messages que vous voulez transmettre à vos jeunes lecteurs?
Bien, moi, je dirais qu'il faut croire en ses rêves. Puis c'est pas parce qu'on est atteint d'un TDA, TDAH ou d'un handicap quelconque qui nous rend différents, là, qu'on peut pas réaliser de grandes choses. Au contraire, moi, je dis que c'est une question de volonté, de persévérance, de travail puis d'effort. C'est avec ça qu'on peut atteindre nos objectifs. Une marche à la fois, puis il faut pas se laisser abattre ou bien se dire « Ah, ben je pourrais pas parce que j'ai un handicap ou je pourrais pas parce que j'ai un TDA. » Non, c'est pas vrai. Avec les moyens nécessaires, puis de la persévérance, puis du travail, tout le monde peut arriver à faire quelque chose dans la vie, quelque chose de grand, quelque chose de bien. C'est ça le message que je veux passer.
J'imagine que c'est le message aussi que Jérémy Dubé passe.
Oui, oui, absolument, parce qu'on va le suivre pendant les 6 tombes, puis on va le voir évoluer, Jérémy. Puis à la fin, il va recevoir son bulletin de 6e année, puis on va être là avec lui quand il va ouvrir l'enveloppe, puis mais on va avoir tout son cheminement de cette dernière année, les efforts qu'il a fait. Puis je pense que c'est une belle histoire.
Bon, on connaît le punch, mais on va lire pareil.
Oui, puis son frère, Jérémy, qui est son jumeau, a la paralysie cérébrale.
Bon.
Et lui aussi a son rêve. Son rêve, c'est à la fin de l'année de faire une course à pied à son école, un 100 mètres à pied. Puis vous pouvez vous imaginer que c'est pas évident pour lui. Qui passe souvent du temps en fauteuil roulant, mais sauf qu'il est quand même capable de marcher plus difficilement que quelqu'un d'autre, naturellement. Mais lui aussi, avec la persévérance, il va faire bien des efforts parce qu'il veut la réussir, cette course-là.
Bon, alors Hélène Gagnon, merci pour ces livres, L'année déchaînée de Jérémy Dubé. On en est au tome 3, il y en aura 6. Et puis, en attendant aussi, on peut lire les 16 tomes basés sur le hockey, Lancez compte, les débuts. Merci Hélène Gagnon, puis continuez votre beau travail.
Bien, merci beaucoup, bonne journée à vous.
Vous aussi, au revoir. Aujourd'hui, l'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale a annoncé les gagnants des prix des champions de la santé mentale. Chaque année, conformément à un processus de nomination ouverte à l'échelon national, l'Alliance choisit les personnes et les organisations reconnues comme champions et championnes pour leur contribution exceptionnelle à la cause de la santé mentale au Canada. Les candidatures de cette année sont particulièrement intéressantes. Des histoires inspirantes de partout au pays, a déclaré le président de la campagne de l'Alliance, Fred Phelps. Les prix des champions de la santé mentale seront présentés au souper gala le 8 mai à Ottawa. Pour en savoir plus, visitez le www.camimh.ca/fr/. Voici quelques gagnants. Le prix Sharon Johnston pour la jeunesse des champions de la santé mentale, Christine Legault-Dunkers, a écrit et publié une série de 4 livres sur la santé mentale des enfants. Média, Tracy Melchor, ou Melchor, est une véritable pionnière dans le domaine de la radiodiffusion canadienne, une mère monoparentale de jumeaux et une survivante du cancer. Domaine communautaire individuel, José Parent a décidé d'aborder le problème lié au logement de transition pour les jeunes de 18 à 35 ans qui sont aux prises avec une maladie mentale en fondant « Mon chaque, mes choix, mon avenir » en 2013. En rafale, en raison des conditions climatiques, la conférence de Pierre Lavoie prévue hier à Rivière-du-Loup est reportée au mardi 10 avril. Sa conférence portera sur le programme Force 4 en soutien à la mesure à l'école On bouge du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. L'ambition du projet, qui s'accompagne d'un soutien financier, consiste à faire bouger les élèves au moins 60 minutes par jour, que ce soit en classe, au gymnase ou à la récréation. Pierre Lavoie abordera également le Lab École dont il fait partie, qui vise à rassembler une expertise multidisciplinaire pour concevoir l'environnement des écoles de demain. La conférence « On bouge au cube, parlons-en avec Pierre Lavoie » aura donc lieu le 10 avril à 17h à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup, située au 62 rue du Rocher à Rivière-du-Loup. La conférence est gratuite et l'inscription est obligatoire au www.100degrés.ca/conférence. Reconnaître l'usure de compassion chez les proches aidants et les ressources disponibles pour eux. L'Appui, Centre du Québec, invite toutes personnes qui sont susceptibles de côtoyer des proches aidants dans le cadre de leur travail ou de leurs activités bénévoles à participer jeudi 26 avril à un avant-midi d'information. L'activité, qui a lieu à la place communautaire Rita-Saint-Pierre à Victoriaville, débute à 8h45 et est offerte gratuitement. Il y aura d'abord une conférence intitulée « L'usure de compassion, jusqu'où aller sans se brûler » afin de savoir la reconnaître chez le proche aidant ou en soi-même. Par la suite, sous forme de table tournante, les gens sont invités à faire connaissance avec les différents services du territoire qui peuvent appuyer les proches aidants dans leur rôle. Pour participer à l'activité ou pour en savoir plus sur les services mis à la disposition des aidants dans leur région, contactez l'Appui Centre du Québec au 819-293-6309 ou le service Info aidant au 1-855-8-LAPPUI, qui veut dire 1-855-852-7784. Un grand merci à mes invités, Alexis Auclair et Hélène Gagnon. Ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci à vous d'avoir été à l'écoute des paractualités de ce 5 avril 2018. On se retrouve lundi prochain puisque l'émission a lieu du lundi au jeudi. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson à la recherche et Mathieu Tessier à la technique. Passez une belle fin de semaine et à très bientôt.